Direction. Valérie Vial.
Mon invité aujourd'hui est Francis Lévy, l'ancien président du consistoire israélite du Bas-Rhin. Il a été président de 2007 à 2015 parmi d'autres rôles importants au sein du consistoire et ailleurs, honoré de la Légion d'honneur également.
Oui.
Bonjour Francis Lévy.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. On n'a jamais eu l'occasion. Pourtant aujourd'hui, l'occasion qui crée cette rencontre, c'est votre arrivé depuis Israël, ici en France. Vous avez vécu les événements alors que vous étiez en Israël.
Alors, j'ai quitté lundi matin le territoire israélien et nous sommes arrivés à Strasbourg en fin d'après-midi, lundi soir.
Comment est-ce que vous avez vécu les événements? Vous avez un pied-à-terre à Tel Aviv?
C'est très gentil de m'inviter, peut-être pas dans les circonstances qu'on attendait.
Donc on aurait préféré dans d'autres circonstances.
Tout à fait.
Sachez que
fait.
C'est votre maison ici, vous venez quand vous voulez, quand vous avez envie de vous exprimer. C'est des occasions qui nous ont manqué et malheureusement l'occasion n'est pas très bonne. Mais...
C'est vrai que depuis de nombreuses années, mon épouse et moi, nous avons un pied-à-terre à Tel Aviv, puisque il y a fort longtemps, j'ai milité dans une association qui s'appelait les Bonds d'Israël. Et à ce titre-là, l'ancien délégué m'a toujours dit « Francis, achète, fais un investissement. » Mon épouse et moi, on n'était pas très chaud. Et un jour, lors d'un voyage avec le FSJU, on a pris le taureau par les cornes et on a trouvé en l'espace de 2 jours ce que nous voulions sur une des plus belles artères de Tel Aviv, Shlomo HaMeler, où nous sommes fiers d'y habiter de nombreux mois dans l'année. J'ai la nationalité israélienne, mais je n'ai pas fait mon alia pour des raisons très simples. C'est que j'ai mes enfants et mes petits-enfants en France. Et que, à ce titre-là, mon épouse et moi, nous voulons encore conserver, comme ils sont petits, et que nous voulons conserver, si vous voulez, une vie familiale intense. Voilà.
Et ça s'entend parfaitement que vous lui réservez cette vie familiale avec vos enfants, vos petits-enfants. Eux, en revanche, viennent vous voir quand vous séjournez quelques mois en Israël?
Alors, de temps en temps, ils viennent à Tel Aviv parce que, comme vous savez, c'est une ville formidable qui vit 24 heures sur 24. Et à ce titre-là, j'ai choisi Tel Aviv. J'aurais pu choisir Jérusalem, où nous avons beaucoup d'amis. J'aurais pu choisir Natania, Haïfa. Non, on a choisi Tel Aviv parce que c'est une très belle ville où chaque fois que nous allons, nous apprenons beaucoup de choses et nous allons dans des associations où nous apprenons aussi bien l'histoire du peuple juif qu'un certain nombre de changements sur la technologie, sur beaucoup de choses.
La alors, Startup Nation, c'est
voilà.
Ça.
Alors, le seul handicap que nous avons, c'est la langue. Mon épouse prend des cours d'ivrite. Moi, je suis un fainéant. Je suis quelqu'un qui, bien entendu, a beaucoup de mal à avoir pris le taureau pour aller sur cette langue. Heureusement, il y a l'anglais. Heureusement, j'arrive à me débrouiller, le français également, mais surtout l'anglais.
Vous auriez pu vous rapprocher des communautés francophones comme Aïlat, par exemple.
Nous avons à Tel Aviv quelques associations de résidents francophones où nous y allons, où nous sommes inscrits, où nous avons souvent énormément de travail en commun sur différents aspects. Non, je crois qu'on s'y plaît. Au début, c'était difficile. Maintenant, on a très clairement beaucoup d'amis, que ce soit des francophones ou des Israéliens, et on s'y plaît.
Donc là, vous y étiez depuis combien de temps?
Alors, nous sommes arrivés le lendemain de Soukhot.
Ah, donc c'était récent.
C'est récent. Et nous devions rester jusqu'à fin octobre parce que nous avions un certain nombre de dispositions à mettre en place au sein de notre appartement sur la rénovation de l'immeuble et surtout sur notre balcon. Donc on a une chance inouïe. C'est que nous sommes arrivés un dimanche et les travaux dans notre appartement ont démarré le lundi. Et ils se sont terminés le jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. 4 jours. Donc, au bout de 4 jours, pratiquement, les travaux extérieurs et intérieurs étaient terminés. Pourquoi le jeudi? Parce que la plupart des ouvriers, des travailleurs en Israël, et surtout, comme vous le savez, ce sont des travailleurs arabes, qui travaillent dans la construction, ils arrêtent le jeudi soir et reprennent le dimanche matin. Donc on a une chance inouïe que les travaux se sont terminés le jeudi soir. Donc à partir de jeudi après-midi, nous avons dit, mon épouse et moi, on va faire des courses. Il faut absolument remplir le frigo. Et on est allé au souk à Carmel, on a fait nos courses. Et j'ai dit à ma femme, prends un peu plus pour justement, si jamais la semaine prochaine, on fait des excursions où on n'est pas sur place. Vendredi s'est passé d'une manière, on est allé à la plage pendant 2 heures, on a marché, on s'est promené, vendredi soir on a fêté Shabbat, on s'est couché, et le lendemain matin, 6h20, je dis bien 6h20, je m'en rappellerai toute ma vie. Pourquoi je m'en rappellerai? Parce que cette sirène que je connaissais depuis la première fois, il y a 1 an et demi, où nous avons été également à Tel Aviv, quand il y a eu les scuds qui sont tombés sur Tel Aviv, et cette sirène m'a réveillé, et nous avons donc une petite minute pour nous mettre à l'abri. C'est un immeuble qui date des années 1960. Malheureusement, dans les années 60, il n'y avait pas encore de chambre forte ou des mamades, comme on dit. La seule possibilité que nous avons, c'est de se mettre dans les escaliers. Pourquoi les escaliers? Parce que c'est la partie centrale de l'immeuble qui nous permet justement à protéger de tout. En une minute, on s'est habillé rapidement. Donc, on a pris nos clés et on est sorti. On s'est mis sur l'escalier.
En pyjama avec les autres voisins?
Exactement. Alors là, je peux vous dire, les autres voisins, c'était des familles avec des enfants, bas âge, des enfants pleurés. Des femmes d'un certain âge que nous avons dans l'immeuble, une femme qui a bien entendu plus de 90 ans, qui a vécu la Shoah, qui était en pleurs. Nous étions de 6h30 jusqu'à 8h15, presque 2h15, dans les escaliers. Une fois que, bien entendu, cette situation, on a senti que...
Vous entendiez les impacts?
Alors, nous entendions les impacts, nous entendions le dôme de fer qui, bien entendu, tapait contre les roquettes, et nous avons senti qu'une roquette était passée peut-être à 200 ou 300 mètres de notre immeuble. Je peux vous dire, l'immeuble a tremblé. C'est pour ça qu'il y a la rénovation du bâtiment qui est imposée par la ville, restructuration, remettre les piliers aux normes, etc. Donc, ce qui est pratiquement terminé. Mais le bâtiment a quand même bougé. Donc, 8h30, on est sorti des escaliers, on est rentré de nouveau dans notre appartement et je me suis mis au balcon. Pas un chat dans la rue. Pas un chat dans la rue. Je suis resté une demi-heure. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Je me suis dit, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Et je vois quelques religieux passer, rigolant, etc., allant vers la synagogue ou allant vers des lieux de culte. Je vais vers la fenêtre. Je dis, mais attendez, où est-ce que vous allez? Mais on va à la synagogue. Je dis, vous êtes au courant de ce qui se passe? Ben non, on sait rien. On a entendu un bon mot. Mais c'est la guerre. Arrêtez.
Vous saviez, vous, à ce moment-là, que c'était la guerre? Vous
avez oui,
déjà...
parce que ma femme était à la télévision.
D'accord.
Elle a allumé la télévision et en voyant I-24, elle a tout de suite compris que il y avait que le journaliste de I-24 disait, c'est grave ce qui arrive, la situation échappe aujourd'hui par rapport aux renseignements et à l'armée d'Israël, c'est grave. On n'avait pas plus d'informations. Et moi, je voyais ces gens dehors. Et quand je leur ai dit ça, les personnes ont changé de trottoir et sont rentrées chez eux. Donc, le matin de 9h à 11h, j'ai essayé de faire comprendre aux gens qui n'avaient pas de téléphone, qui rentrez. Vous savez que beaucoup de gens dormaient le matin à 6h30 et non, peut-être ils dorment profondément ou n'ont pas appris qu'il y avait une alarme à Tel Aviv.
Et puis c'est Shabbat, beaucoup de gens n'avaient pas accès ni à la radio ni à la télévision.
On est bien d'accord. Et je suis allé regarder la télévision et je l'ai, pour ainsi dire, toute la journée.
Vous avez regardé en boucle, qu'est-ce que vous aviez, vous,
comme chaîne
d'information?
Alors je vais vous dire, j'étais d'ailleurs très surpris. J'ai commencé à regarder I-24 et ensuite je suis allé sur BFM TV. Jamais j'ai remarqué que BFM TV avait un impact aussi important, mais du matin au soir et encore aujourd'hui, des informations continues sur Israël. J'ai appris que BFM TV et I-24 sont associés.
Ont des rédactions communes.
Sur. D'ailleurs, c'est le même patron, comme vous le savez. Ceci dit, donc, toute la journée, on a regardé la télévision. Le soir...
Donc vous aviez effectivement pris la mesure de l'ampleur de cette attaque terroriste. Vous êtes rendu compte à ce moment-là ?
Tout de suite qu'il y avait un gros problème que nous n'avions jamais vécu jusqu'à présent. C'était le problème du terrorisme par rapport à... Et c'est seulement vers l'après-midi que nous avons vu ces photos. Ces photos inimaginables, où on voit, si vous voulez, un caterpillar rentre... essayer de détruire un grillage où on voit des parapentes qui survolent. Mais je dis, mais où est-ce qu'on se trouve ? On est au cinéma, c'est quoi ? Comment la sécurité d'Israël a pu laisser faire ce genre de choses ? J'ai quelques amis de mon immeuble qui sont descendus, qui parlent français, parce qu'il y a quelques francophones, et qui m'ont dit, Il y a un problème. Il y a un gros problème. Et je suis sûr, c'était déjà samedi après-midi, qu'il y a un gros problème entre trois choses. Un, les renseignements. Deux, le gouvernement. Trois, l'armée. Il y a un problème. Ou ils n'ont pas été connectés ensemble, ou il y a eu certainement un dysfonctionnement par rapport à la communication. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent les questions, mais... comme certaines personnes l'ont dit, on fera le ménage après. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité.
Là, vous saviez que la rave party, les enfants avaient été exécutés dans les kibboutz également ?
Non, on a appris qu'il y avait une rave party le vendredi soir. Cette rave party a démarré le vendredi soir, s'est poursuivie toute la nuit. On a appris ça le samedi en fin d'après-midi. Ce que je ne comprends pas, que cette rave party... a été installé à 4 km de Gaza. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis allé pas loin de Gaza l'année passée, quand j'ai fait un tioul, une excursion, et on m'a bien fait comprendre que sur une bande quand même de plus de 10-15 km, il n'y a strictement rien. C'est un désert entre ces 15 km et le mur de Gaza. Il n'y a rien. Et là, à 4 km, ils ont fait une rave party ? C'est quoi ça ? Je pense que le moment venu, oui. Il faudra en tirer les conséquences à tout niveau. Donc, samedi soir, je ne vous cache pas que nous n'avons pas dormi toute la nuit.
Vous aviez peur, vous étiez anxieux.
Nous avons, à 9h du soir, deuxième sirène. Elle a duré une heure. La nuit de samedi-dimanche, il y a eu 4 sirènes. Donc, 4 sirènes, une de une heure, une de une demi-heure. En fin de compte, entre une demi-heure et une heure, jusqu'à 6h du matin. C'est toujours la même chose. Les gens qui sont dans les escaliers se posent des questions. Combien de temps ça va durer, ces sirènes ? Mais on a pris conscience que c'était une action des terroristes qui n'était pas la même qu'il y a un an et demi. On sentait que c'était quelque chose de plus fort. Le plus important par rapport à ce qu'on avait entendu et écouté à la télévision. Dimanche matin, on est resté également chez nous. On n'a pas quitté la maison samedi et dimanche. Nous avons toujours les rues vides. La seule chose que nous avons vue, c'est quelques personnes qui marchaient dans la rue avec leurs chiens. Vous savez qu'il y a beaucoup de chiens à Tel Aviv.
Mais oui, et, vous avez raison, c'est nécessaire.
Il est nécessaire de sortir les chiens. Donc, c'est la seule chose qu'on voyait. Mais il sortait quelques minutes et il rentrait. Rien, vide, pas un bruit. Je dis bien pas un bruit, si ce n'est que les sirènes. Dimanche après-midi, à nouveau les sirènes. Nous avons, mon épouse et moi, à partir de 17h, nous avons pris une décision. On ne peut pas continuer à rester comme cela. D'abord parce que, je suis désolé, j'ai un certain âge. Je ne vis peut-être pas... comme d'autres vivent en Israël, qui ont leurs enfants, leurs petits-enfants, souvent leurs enfants à l'armée, leurs petits-enfants également. Je n'ai pas de famille proche en Israël. Donc, nous avons décidé, si nous pouvions partir le plus tôt possible de Tel Aviv. Pour ça, il faut trouver un avion. Je ne suis pas très doué en informatique, heureusement que j'ai ma femme et mon épouse.
Et les réseaux étaient encore en place, les réseaux Internet.
Donc, de ce côté-là, nous n'avions aucun problème. Les réseaux en place, pas de soucis de ce côté-là. Donc, on a démarré vers 18h la recherche. Nous avons été sur notre PC au moins jusqu'à 4h du matin. 4h du matin. Entre-temps, deux sirènes. De nouveau, entre le dimanche soir et le lundi matin, sortir dans les escaliers. Et la première chose, LAL. C'était même pas la peine. Surbooker, je peux vous dire. Surbooker, que ça soit sur le lundi, le mardi ou le mercredi, c'était même pas la peine. En ce qui nous concerne, on serait allé à Madrid, à Barcelone, à Paris,
peu importe, il fallait sortir, du pays et de cet enfer, bien sûr.
Alors on a commencé Lufthansa, niet. Ensuite KLM, niet. Il fallait chercher, bien entendu, des compagnies qui atterrissent à Ben Gurion et qui repartent de Ben Gurion. Ensuite, nous sommes allés sur EasyJet, plus rien. Et ma femme me dit, mais attends, on a un billet de retour avec Ryanair. Pourquoi on ne va pas essayer avec Ryanair ? Je type sur Ryanair et je vois un départ lundi midi pour Ryanair. Il reste deux places. Je lui dis, prends. Prends.
Bah oui, vous ne posez pas la question.
Elle me dit, Francis, ça ne veut rien dire encore. Ça peut être annulé. Je lui dis, prends.
Il y a des vols, effectivement, qui ont été annulés. Et là, je vois de votre sourire que non, vous avez pu partir.
Attendez, on n'en est pas encore là. Donc, elle a pris ses deux billets. Entre 4h du matin et midi, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais, j'ai tout de suite dit à ma femme, à 7h, je téléphone à Baden-Baden, puisque c'est le vol Ryanair, Baden, Tel Aviv, Tel Aviv, Baden. Il fait la navette. Je veux savoir s'il est parti. Baden-Baden. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons eu la chance d'avoir des valises cabines. Nous sommes partis à pied jusqu'au terminal Savidor, c'est-à-dire là où se trouve le train pour aller à Ben-Gurion. Nous sommes arrivés après trois quarts d'heure à Savidor. Savidor, nous avons pris le train. Ce train bondé de militaires. Et je peux vous dire, quand j'ai vu ces jeunes, j'ai eu la larme à l'œil. Ces jeunes hommes qui allaient sur le front, direction le sud, puisque Ben Gurion, ensuite, on descend vers.
Donc certains, on le sait maintenant, ne sont jamais revenus.
Ils sont partis, il fallait voir leurs armes, mais pas un mot dans le train. Ils ne parlaient pas.
Comme des jeunes personnes tétanisées qui partaient à la guerre.
Et je vais vous dire, la première chose que deux soldats ont fait quand on est rentré, ils étaient bondés. Ils se sont levés pour nous laisser la place. J'ai dit non, vous restez assis. J'avais deux bouteilles d'eau, je leur ai sorti deux bouteilles d'eau, je leur ai donné deux bouteilles d'eau. Ils étaient heureux, ils ont bu. Arrivés à Ben Gurion, nous avons eu de la chance. Le vol Ryanair au départ de Tel Aviv sur Baden était au terminal 3. Normalement, les locaux sont au terminal 1. Et là, tout était regroupé, puisqu'il n'y avait pratiquement pas d'avion. Au terminal 3. Donc, on n'avait pas besoin de reprendre une navette pour aller au terminal 1. On est sorti. Et pour rentrer dans l'aérogare, un monde ! On a passé plusieurs checkpoints, 2-3, que nous n'avions jamais avant, mais c'est normal par rapport à la sécurité. Mais à l'intérieur, je n'ai jamais vu autant de monde dans un aéroport de ma vie. Autant de monde. Pourquoi ? Parce que les gens sont venus n'ayant pas de billets. Ils voulaient absolument partir. Des gens qui ont peut-être fêter Soukhot, puisque c'était la fin de la fête, et qui voulait absolument rentrer, qui ne voulait pas rester, je peux vous dire.
Bah, les gens qui ont eu peur,
Et des gens qui ne savaient pas où est-ce que je vais me diriger. Je regarde le panneau, bien entendu, de destination. Cancel, 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 cancel. Pratiquement tous les vols étaient annulés ou reportés à une date ultérieure. Je cherche le mien. Ryanair, direction Baden-Baden, je ne le trouve pas. On se dirige vers la sécurité, parce qu'il faut d'abord passer la sécurité. Comme on n'a pas de bagages à enregistrer, on passe le checkpoint pour l'enregistrement. On rentre vers on voit beaucoup de gens. Si vous voulez, beaucoup de gens, c'est en fin de compte un ou deux avions qui étaient prêts à partir, dont le nôtre, mais pas plus. Oui. Peut-être 200 personnes. Quelques minutes après, on nous fait savoir que notre avion est prêt à prendre les voyageurs. On se dirige vers vers l'embarquement et nous avons deux pieds d'enregistrement priority. Nous sommes le troisième ou la quatrième personne à rentrer dans l'avion. Nous descendons dans la passerelle, je rentre dans l'avion, un boum énorme. La carlingue et la sirène se mettent. Le commandant de bord de l'avion nous dit « Mettez-vous à terre !» On se met à terre. Tous les voyageurs qui n'ont pas encore embarqué doivent quitter la passerelle pour aller dans une salle sécurisée. Nous restons par terre pendant plus de 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il faut savoir que l'aéroport est un des aéroports les plus sécurisés et que les roquettes, normalement, ne peuvent pas
tomber sur cet aéroport, c'est pas possible.
Ils doivent être interceptés par le drone du ciel. Au bout de 10 minutes, le commandant de bord qui était dans son cockpit est sorti et a dit « Vous pouvez vous le relever ». Et nous avons attendu 5 ou 10 minutes seulement après, les gens sont revenus. Je peux vous dire dans quelle partie ils étaient. Certaines personnes ont pleuré, des femmes, des enfants. Nous nous sommes installés. Nous avons attendu à peu près une demi-heure, mais je peux vous dire, après, on s'est assis, personne n'a pu, pour ainsi dire, parler, si ce n'est qu'une personne, un juif orthodoxe qui s'est levé et qui a dit...
Et qui a prié.
Mesdames, messieurs, je désire que nous fassions une prière, tous ensemble, avant de partir, unanimement. Et je peux vous dire qu'il y avait des gens non religieux et non juifs qui étaient dans cet avion. Ils ont demandé une kippa où ils ont mis un béret sur la tête. Et il a fait une prière. Une fois que cette prière était terminée, le hasard a voulu qu'on ferme les portes. Le commandant de bord a eu l'autorisation de la tour de contrôle pour quitter le tarmac. Il a mis quelques minutes, puisqu'il n'y avait absolument aucun trafic. Nous étions le seul avion qui quittait. Il a quitté la piste. Il a commencé à décoller. Je ne mens pas. Il a mis plus de 35 minutes à sortir de la terre, puisque en principe, on met 3 minutes pour accéder à la mer. Il a mis 35 minutes. Il a fait un tour énorme, un changement complet de trajectoire. Il a très très bien fait, il a eu des ordres certainement de la tour de contrôle, il est passé.
C'était pour votre sécurité.
Je termine, nous sommes arrivés à Baden-Baden. Nous étions heureux d'être arrivés à Baden-Baden. J'étais également un des premiers à sortir de l'aérogare. Quand je suis sorti, j'ai vu à peu près 70-100 personnes. Et j'ai reconnu certaines personnes qui m'ont dit on est venu voir notre famille parce qu'on a appris ce qui s'est passé à Lod, à Ben-Gourion. On voulait savoir si tout le monde était en bonne santé. J'ai quitté rapidement puisque j'avais mon véhicule qui était parqué. Je suis rentré chez moi à la maison. Voilà un petit peu ma petite histoire. Je tiens juste à vous dire que on n'a pas récupéré, mon épouse et moi. On a beaucoup de mal passé les nuits.
Vous êtes toujours là-bas, en fait.
On est toujours là-bas, mais vous savez, moi, je pense à toutes ces familles en Israël. C'est ce que je voulais terminer. Je pense à tout ce peuple. Je pense à tous ces soldats. Je pense à tous mes amis qui sont restés là-bas. Je leur souhaite, bien entendu, qu'ils puissent rester en bonne santé et que rien ne leur arrive sur cette terre qui est notre terre, qui est la terre des juifs et que rapidement on puisse vivre dans d'autres conditions. Alors on ne va pas revenir sur la partie politique, le Hamas, les problèmes de ces barbares. C'est immonde, je dis bien c'est immonde.
Non, effectivement, c'est pas le sujet aujourd'hui de ce témoignage.
Et vous voyez que je n'en parle pas. Je voulais juste dire que ce que j'ai vécu à titre personnel pendant ces 3 jours, la fatigue, être démoralisé, stressé. Vous savez, j'aurais 40 ans de moins, j'ai toujours été un fonceur.
Vous auriez combattre. Hein.
Je serais certainement resté là-bas et j'aurais donné de ma vie pour les autres. Je ne sais pas comment, bénévole, je ne sais pas, j'aurais donné... Je pense qu'on ne vit pas, peut-être, on vit d'une manière différente aujourd'hui. Encore une fois, j'ai ma femme, mes enfants...
Vous êtes un homme engagé, Francis Lévy. Bon. Et on le sait ici, à Strasbourg, bien évidemment.
Alors, je terminerai par... effectivement, il faut faire quelque chose. Il faut un soutien. Il faut un soutien dans la diaspora. Il faut un soutien pour Israël. Alors, c'est vrai que j'ai vu hier un document sur mon iPhone comme quoi que l'institution consistoriale allait faire une collecte de fonds spéciale Israël et qui s'associe avec une association Lev Israël Rehov Kalisher à Tel Aviv. C'est moi qui vais vous poser une question. Vous savez qui c'est Lev Israël?
Non, on va faire confiance au consistoire. Je ne sais pas qui c'est.
Alors, moi je sais qui c'est. Depuis hier après-midi, il y a une quinzaine de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Ils font cela ?» Je dis « Bon, c'est une association, moi je vous le dis, je connais la Rehov Kalisher, c'est une rue importante à Tel Aviv, où se trouvent des associations, dont cette association religieuse, orthodoxe, qui s'occupe bien entendu en partenariat avec peut-être la ville de Tel Aviv pour les francophones, mais c'est surtout bien comme l'on le voit aujourd'hui hein, dans Internet, c'est une association religieuse talmudique et qui maintenant pour les prochains temps vont s'occuper de à fournir pour les familles, pour les soldats, un certain nombre de produits et de nécessités. Ce que je ne comprends pas, dis bien ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a 50 ans, jour pour jour, comme vous savez, il y a eu la guerre de Kippour. Et en son temps, il y avait mon prédécesseur, Jean Kahn. C'était une...
C'est presque une
personnalité,
légende.
Une légende. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni chez lui à la maison, chez lui à son domicile, une centaine de personnes. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces 100 personnes? Il y avait le rabbinat, les grands donateurs, il y avait les responsables de toutes les associations, des lieux de culte, pour essayer de faire une unité, je dis bien, et pour essayer de chercher quel est le moyen ou les moyens qu'il faut mettre en place. J'étais présent avec mon père à l'époque. J'étais jeune, j'avais 23 ans, j'étais là. Et je me rappelle qu'il y avait un fonds commun, je pense que c'était à l'époque le FSU, qui est pour moi, aujourd'hui, l'organisme représentatif, c'est eux qui doit, bien entendu.
Et alors, centraliser les dons.
Mais absolument. Vous avez d'ailleurs lui, vous avez peut-être.
Magen David Adom. Le Kerem Yassod.
Merci madame, on est en France. C'est cela que je n'ai pas compris. Je leur ai fait savoir, cette association est dirigée par un rabbin qui est présidé par, bien entendu, par le rabbin Eli Lemel, et le directeur de cette association, c'est son fils Abraham Lemel. Le rabbin Lemel est un ancien rabbin de Cadet, de la communauté de Paris, mais il faut faire en sorte que les instances françaises prennent en main les décisions concernant les communautés. Et n'oubliez pas, le FSJU, c'est le premier organisme payeur pour les organisations communautaires.
C'est entendu, monsieur Francis Lévy. Donc, je rappelle, on a également fait des interviews pour le Magen David Adom, qui financent les paramédics et tout le matériel médical, le Keren Hayasod, qui sont plus sur le côté éducatif et social, et LFJU, bien sûr, qu'on connaît bien ici, et ces organismes qu'on soutient ici à Radio Judaïka. Monsieur Francis Lévy, donc, je rappelle, vous étiez le président du consistoire israélite du Bas-Rhin jusqu'en 2015. On a eu l'occasion de se croiser. J'espère qu'on aura encore l'occasion d'échanger autour de ce sujet sur votre expérience, sur les nouvelles que vous pouvez nous donner d'Israël. Écoutez, on vous souhaite le meilleur. Remettez-vous, reposez-vous. Merci en tous les cas pour votre témoignage.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction.